Bonsoir à tous. L'Europe face au risque d'une troisième vague de l'épidémie de coronavirus. Londres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés à partir de demain. Boris Johnson évoque une nouvelle souche du virus qui se transmet plus facilement. Nous serons à Londres dans un instant. Reconfinement également en Italie pour les fêtes de fin d'année. Interdiction de voyager d'une région à l'autre. Les messes de Noël seront autorisées jusqu'à 22h. Et en France, déconfiné, pas d'insouciance à Noël et pour les fêtes de fin d'année. Sur Covid, l'évolution de l'épidémie reste préoccupante. Dans ce journal également, Laurent Blanc, nouvel entraîneur du club Al Rayyan au Qatar, et notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma vie connectée de Christine Siméon et un concours de BD lancé par la Bibliothèque nationale de France. La météo pour demain, de la pluie sur l'Est et la Provence, neige en montagne, quelques éclaircies à l'Ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Londres donc, reconfiné à partir de demain, ainsi que le sud de l'Angleterre. Boris Johnson a mis fin cet après-midi aux retrouvailles de Noël. Les courses de Noël sont terminées à Londres. Les magasins ferment ce soir. Le Premier ministre britannique espère que ce confinement va permettre de juguler les contaminations. Le Royaume-Uni est confronté à une nouvelle variante du virus, plus contagieuse, mais rien n'indique, selon Boris Johnson, que cette nouvelle souche est plus mortelle. Le Royaume-Uni annonce ce soir 27 052 nouveaux cas de contamination. Le seuil des 2 millions de cas a été franchi aujourd'hui. Londres, Maxence Peignet.
Ce matin encore, les Britanniques pouvaient espérer passer les fêtes de Noël avec quelques proches. Ce soir, au vu de la situation sanitaire, Boris Johnson a douché leurs espoirs lors d'une allocution télévisée. « C'est avec le cœur gros, dit-il, que je vous informe que nous ne pourrons pas passer Noël comme prévu. » Et pour cause, le virus a muté dans le sud de l'Angleterre. Il y est devenu plus agressif et plus contagieux. Il semble que la propagation soit désormais accélérée par cette nouvelle souche du virus, explique le Premier ministre. Nous l'avons découverte plus tôt cette semaine et elle pourrait être jusqu'à 70% plus contagieuse. Un quatrième niveau d'alerte va donc entrer en vigueur dès demain, en plus des trois déjà existants. Il comprendra de nouvelles règles qui s'appliqueront d'abord à Londres et au sud-est du pays. Ces régions auront des restrictions semblables à celles du confinement national de novembre dernier, détaille Boris Johnson, ce qui signifie que leurs habitants devront rester à la maison. 350 000 Britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus. Ce soir, le Premier ministre a dit n'avoir aucune preuve que cette nouvelle souche serait plus résistante. Londres, Maxence Peignet, France Inter.
Et en Italie, Noël est classé rouge comme le réveillon du nouvel an. À partir de lundi, l'Italie va donc être placée en niveau de confinement le plus strict. Ce soir, les chiffres de la progression de l'épidémie de coronavirus sont malgré tout en diminution. 16 308 nouveaux cas aujourd'hui en Italie contre près de 18 000 hier. Mais après plusieurs jours d'hésitation, de réflexion, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé un plan de reconfinement gradué pour les fêtes de fin d'année. Rome, Olivier Tosseri.
Activité économique et santé ne sont pas conciliables en ce moment, estime le gouvernement italien qui s'est résolu à proclamer un confinement sévère pour les fêtes de fin d'année. Terminer le découpage du territoire en zones de couleurs différentes selon la situation épidémiologique. Toute l'Italie, de la veille de Noël à l'épiphanie, sera placée en zone rouge avec la fermeture du commerce de détail. Une mesure qui provoque la colère de Francesco, petit commerçant à Rome.
C'est un désastre de travailler dans de telles conditions. Le mois de décembre représente 30 à 35% de notre chiffre d'affaires annuel. Ce décret va provoquer des pertes énormes qui nous empêcheront d'affronter l'année qui vient avec tranquillité. On vient déjà d'une situation très difficile à cause du précédent confinement. Celui-là, c'est le coup de grâce final. Je suis à la fois en colère et sans voix devant un décret qui, selon moi, n'a aucune raison d'être. Il ne protège ni la santé des citoyens, ni les commerçants.
Le gouvernement restera inflexible après avoir longtemps tergiversé. Dès la semaine prochaine, il sera interdit de voyager d'une région à l'autre. Les bars et les restaurants resteront fermés et une seule sortie par foyer par jour sera tolérée. Quant aux tables des réveillons des Italiens, ils devront respecter les limites de 2 invités adultes par famille. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
L'Italie annonce donc ce matin un reconfinement. Le Royaume-Uni cet après-midi. L'Allemagne s'est reconfinée cette semaine. L'Europe est face à la menace d'une troisième vague de l'épidémie après les fêtes de fin d'année. En France, hier, dans une vidéo, Emmanuel Macron a demandé la plus grande vigilance en cette fin d'année face à un virus qui repart encore plus fort. Le chef de l'État a également expliqué qu'il allait bien. Et à la mi-journée, le médecin du président a indiqué par communiqué que l'état de santé d'Emmanuel Macron est stable. Les examens sont rassurants. rien ne l'empêche de remplir ses fonctions. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, actuellement en convalescence après avoir contracté le virus en octobre. La France est donc sortie officiellement du confinement cette semaine, mais l'épidémie ne permettra pas de passer les fêtes de Noël avec insouciance, même si par exemple le trafic aérien a repris pour les vacances de fin d'année. À l'aéroport de Caen-Carpiquet, le nombre de vols pour la période des fêtes a augmenté. Reportage Léa Dubost, France Bleu Normandie.
Je pars en direction de Nice.
Un dernier au revoir à ses grands-parents et Hugo s'envole pour le sud de la France.
Pour des vacances, parce que j'habite à Saumur, je reviens chez mes parents pour 2 semaines.
Comme lui, de nombreux voyageurs ont choisi l'option de l'avion pour les vacances de Noël, un moyen de transport qui a plusieurs avantages.
Ça permet de faire des économies, on prend très souvent l'avion, voir les grands-parents par exemple, voir le tonton, la tatie, c'est pas très très dur à trouver un billet. Voilà.
Et depuis le 17 décembre, les compagnies aériennes proposent davantage de vols à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Michel Collin, président de la CCI Caen Normandie, gestionnaire de l'aéroport.
On a plus de vols sur les destinations notamment de Marseille, Toulouse, Nice, avec sur Marseille 17 vols Volotea complétés par 4 vols Air France. Sur Toulouse, 15 vols Volotea dans la même période. Sur Nice, 11 vols Volotea plus 10 vol Air France. En considérant qu'on a toujours 2 vols quotidiens sur Lyon, auxquels s'ajoutent exceptionnellement 4 vols Volotea pour Caen-Lyon.
Avec un taux de remplissage d'environ 70%.
Il y a une vraie demande, le public est au rendez-vous et donc ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir.
On espère pouvoir retrouver un trafic aérien quasi normal au printemps prochain, conclut-il.
Léa Dubost, France Bleu, Normandie. Depuis aujourd'hui, en Corse, le test est obligatoire avant d'arriver sur l'île. Les premiers contrôles ont donc eu lieu et selon la préfecture de Corse, 98% des 3000 personnes arrivées aujourd'hui disposaient bien d'un test PCR négatif. Les tests justement, dans plusieurs régions et en Île-de-France, on s'attend à une ruée sur les tests de dépistage avant Noël. Une augmentation de 40% est annoncée pour l'Île-de-France. Pourtant, malgré ces tests massifs, il faut rester extrêmement vigilant au moment du repas de Noël, mais aussi du réveillon de Nouvel An. Selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, le test négatif n'est pas une assurance d'immunité. Benjamin Davido.
On peut être négatif à un instant T et positif le lendemain. On risque de se retrouver avec l'arroseur arrosé, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont le fameux totem de l'immunité puisqu'ils sont testés négatifs et donc c'est le saint blanc pour aller se contaminer pendant les fêtes. On sait qu'en fonction d'abord du type de test qu'on va faire, si on fait un test antigénique, on sait que le test ne peut être positif que dans les 4 premiers jours suivant les symptômes. Donc ça veut dire qu'il faut être symptomatique, ce qui n'est pas le cas de tous les individus. Plus on est jeune, plus on va avoir de contacts, plus on va prendre de risques. Et on va se retrouver dans une situation où finalement on va rendre le test faussement négatif puisqu'on n'a pas de symptômes et qu'on va être dans une fourchette très arbitraire, très aléatoire. L'examen de référence restant le test PCR qui est plus long, aussi plus coûteux à réaliser. Et donc on voit bien que finalement s'il fallait un calendrier, je vous dirais il faut se faire tester tous les 8 jours et c'est pas vivable, bien c'est sûr. Pas faisable et on risque d'encombrer les laboratoires pour les gens qui sont malades et qui ont besoin de tests dans un délai rapide.
Benjamin Davido avec Jules de Kiss. Le scandale international de l'affaire Jeffrey Epstein, accusé d'exploitation sexuelle sur mineurs aux États-Unis, ce scandale rebondit en France. Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin français accusé de viol par plusieurs anciens top modèles, a été arrêté cette semaine. La justice américaine enquête également sur Jean-Luc Brunel. En France, Jean-Luc Brunel a été mis en examen pour viol et harcèlement sexuel. Sophie Parmentier a pu joindre Anne-Claire Lejeune, avocate de plusieurs plaignantes qui dénoncent depuis longtemps des faits de viol contre Jean-Luc Brunel.
Une grande satisfaction, un grand soulagement pour les victimes, mais je dirais aussi finalement un aboutissement, puisqu'il faut rappeler que pour certaines de mes clientes, ces faits avaient déjà été dénoncés en 1988, il y a plus de 32 ans, et rien n'avait été fait à l'époque. Donc effectivement, aujourd'hui, leur parole est enfin matérialisée. De toute évidence, le fait que la parole de ces femmes soit enfin entendu, ça encourage nécessairement d'autres à faire de même et à prendre la parole. Durant la garde à vue de Monsieur Brunel, donc vraiment tout récemment, j'ai été contactée par 3 autres femmes qui disent avoir été victimes aussi de Monsieur Brunel. Ce sont a priori des témoignages qui ne seront pas prescrits et qui pourront venir alimenter l'information judiciaire.
L'avocate Anne-Claire Lejeune avec Sophie Parmentier. Welcome, le président Laurent Blanc. C'est c'est par ce tweet de 5 mots avec la photo de Laurent Blanc que le club qatari Al Rayyan a officialisé l'arrivée du nouveau sélectionneur. Laurent Blanc, surnommé le président, qui a réalisé le doublé mondial Euro en 98 et 2000, va donc entraîner ce club qatari. Et ce club, Emma Sarango, comme le PSG, est la propriété de la famille princière Al Thani.
Les débuts du président sur un banc avaient été plutôt prometteurs. Un titre en Ligue 1 avec Bordeaux en 2009, un quart de finale de l'Euro avec l'équipe de France en 2012, mais une aventure bleue ternie par le scandale des quotas ethniques. Et puis trois saisons à Paris, une ultra-domination en championnat, mais trois échecs consécutifs en quart de Ligue des Champions. Nous sommes alors à l'été 2016, c'est le dernier poste d'entraîneur de Laurent Blanc. Depuis, il a été annoncé partout, ou presque, l'Inter, la Roma, Valence, Arsenal, Saint-Pétersbourg, Toronto, en France aussi, Monaco, Lyon, plus récemment Nantes et même Nice, mais jamais le champion du monde ne signe. Récemment sur TF1, il confiait même « plus le temps passe et moins j'y crois ». Le doute, c'est peut-être entre autres ce qu'il a décidé à 55 ans à finalement s'engager au Qatar, au club d'Al Rayyan, octuple champion qui occupe actuellement la 6e place sur 12 et qui est propriété de la famille princière Al Thani, la même qui possède le dernier club de Laurent Blanc, le PSG.
Emma Sarango. Notre rendez-vous du samedi soir avec Ma vie connectée de Christine Siméone. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Alors la Bibliothèque nationale de France lance un concours de BD, patrimoine et bandes dessinées. Et d'abord il faut se rendre sur l'application qui permet de concevoir ces BD, BDNF. Et là, c'est parti. Est-ce que c'est facile?
C'est facile de télécharger une application. Oui, bien sûr. Faire une BD, pas tant que ça. Sinon, il n'y aurait pas de concours. Il n'y aurait pas d'auteur ni d'autrice non plus. Alors, cette application BDNF a été lancée avant le confinement et s'est trouvée très appréciée, notamment en milieu scolaire. 200 000 personnes l'ont téléchargée à ce jour. Écoutez Damien Sueur, en charge du projet à la BNF.
On a senti qu'il y avait trois types de publics principalement qui utilisaient l'outil. C'était les enseignants qui proposaient en fait de faire des devoirs sur des thèmes liés à l'histoire, les sciences, l'art, à travers BDNF. Il y a aussi des formateurs qui se sont appropriés l'outil et ont proposé en fait des ateliers en ligne. Et puis tout simplement les parents qui ont vu un moyen ludique d'occuper leurs enfants. Et puis en plus, je pense que ce qui a beaucoup plu, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles entre le virtuel et le réel. L'enfant peut dessiner sur une feuille de papier, puis intégrer son dessin dans sa BD numérique. On a voulu vraiment que ce soit un outil numérique, mais qui ait une résonance physique, qui ramène vers le réel au maximum.
Alors ce concours, Christine, bande dessinée et patrimoine, en quoi consiste-t-il exactement?
Il permet de créer des histoires, donc bien sûr avec ses propres dessins, mais pas seulement.
On vient de mettre en fait une dizaine de corpus thématiques, jardins et paysages, des marionnettes, un autre sur l'univers de la fantasy à l'anglaise, la mythologie grecque, le Japon, la mode, les monstres, le Moyen-Âge et le sport. Dans le concours, en fait, on s'est dit, on garde cette idée de départ de favoriser cet aller-retour entre découverte du patrimoine et création d'histoire. Et en fait, on impose aux participants le fait, en fait, de devoir utiliser une image issue des collections de la BNF dans la bande dessinée.
Voilà, BDNF, une appli gratuite à télécharger sur ordinateur, tablette et mobile. Et puisqu'on parle de ces images si précieuses que l'on trouve dans les rayons de la Bibliothèque nationale de France et surtout dans ses rayons numériques Gallica, je vous ai fait une petite sélection de ces documents les plus précieux avec des sapins de Noël, des fonds d'écran même originaux pour vos réunions de télétravail en visioconférence.
Merci beaucoup.
Sur le site de France Inter.
Sur franceinter.fr, ma vie connectée. Merci beaucoup Christine Siméone. Le temps pour demain.
La météo avec les poulets de Loué. Par tous les temps, les fermiers de Loué élèvent leurs poulets en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Les températures vont conserver un niveau de croisière supérieur au normal, au moins jusqu'à Noël. Ensuite, il fera sensiblement plus frais. Toujours est-il que ce dimanche, les valeurs au lever du jour seront généralement comprises entre 5 et 10 degrés. Les températures diurnes vont afficher 10 à 14 à l'abri du vent sensible dans la moitié nord et 14 à 17 sur les régions méridionales. Demain, entre les restes de la perturbation d'aujourd'hui qui va stationner une grande partie de la journée sur la façade est du pays, de l'Alsace à l'est de la vallée du Rhône, qui donnera des pluies marquées et parfois mêlées d'orages cette nuit et encore demain matin sur les littoraux de la région PACA, avec de la neige à partir de 1600 mètres sur les Alpes, et l'arrivée en soirée d'une nouvelle perturbation par les départements bretons. C'est un temps variablement ensoleillé qui va s'imposer, mais avec une forte probabilité d'averse sur les côtes de la Manche et de l'océan.
Jean-Michel Golinski de Météo France.